France Inter. Le 7-9. Marc Fauvel.
Bonjour Gilles Jacob.
Bonjour.
Le Festival de Cannes débute dans une quinzaine de jours. Vous lui consacrez à lui et au cinéma ce dictionnaire amoureux du Festival de Cannes qui vient de sortir chez Plon. 800 pages de récits, d'anecdotes, de rencontres aussi avec ceux qui font le 7e art. Votre premier festival, Gilles Jacob, à Cannes, c'était quand ?
1964. J'étais jeune journaliste et je suis arrivé là émerveillé.
Alors vous l'avez d'abord couvert comme journaliste, comme critique avant d'en être le délégué général, puis pendant 14 ans le président. Qu'est-ce qui a le plus changé à Cannes pendant toute cette période ?
Tout. Car en réalité, quand je suis arrivé, c'était quelques centaines de personnes qui se promenaient sur la croisette sans aucune difficulté. Et c'est devenu un événement mondial aussi important que les Jeux Olympiques, avec toutes les contraintes à tout point de vue pour les gens qui viennent là. Mais en même temps, c'est le lieu où, une fois par an, le cinéma mondial se retrouve et où nous rechargeons les piles et les batteries pour leur donner envie de faire des films, de voir des films.
Ce qui a changé aussi, c'est l'argent, les sommes en jeu aujourd'hui dans le cinéma. Rien à voir avec ce que c'était dans les années 50 ou 60.
Rien à voir, parce que Cannes est aussi devenu un marché. Le cinéma est une industrie. Ce marché a été possible grâce au nouveau palais en 1983, qui a permis une extension énorme. Et c'est vrai que tous les gens viennent du monde entier, mais en même temps, le côté artistique est resté très fort. La sélection, le palmarès, la compétition, les jurys, les artistes. Donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistique pour contrebalancer le côté financier du commerce.
Alors vous consacrez dans ce dictionnaire une très grande place, notamment aux actrices Adjani, Binoche, Deneuve, ou encore celle qui a été l'une des rencontres de votre vie. C'est ce que vous dites, c'est Jeanne Moreau.
Ah, Jeanne Moreau, c'est la plus grande. Elle a été starlette, elle a été comédienne, elle a été primée.
Elle a été présidente du jury.
D'abord jurée, présidente deux fois. Elle a présenté des anniversaires, notamment le 50e, qui était la plus belle fête qu'on ait jamais faite à Cannes. Et ça a été comme la marraine du festival et une amie très chère. Et donc Jeanne Moreau arrivait dans un hôtel, elle s'apercevait qu'on lui donnait la deuxième suite et pas la première, et elle avait son merveilleux sourire et elle disait au directeur qui s'aplatissait « Mais monsieur, où voulez-vous que je mette mes affaires ?» Et on lui donnait la plus belle suite.
Alors on va le feuilleter avec vous, ce dictionnaire amoureux du Festival de Cannes. Gilles Jacob, en voici un des moments forts que vous racontez dans ce livre, on est en 73.
L'idéal, ce serait pouvoir continuer à manger comme ça indéfiniment. Tu en penses?
Bien sûr, ça serait magnifique.
À toi la caille, à moi le coquelet. Vous n'avez pas faim?
Je n'aime pas beaucoup manger.
Vous êtes probablement mal tombé.
J'ai l'impression, oui.
La grande bouffe de Ferreri avec Mastroianni, Noiret, Piccoli. On a du mal aujourd'hui à imaginer le scandale que ça a été à l'époque, y compris lors des projections à Cannes.
Un scandale énorme.
Il y avait des gens qui se levaient dans la salle.
En plus que ça, ils crachaient sur les acteurs physiquement quand ils ont redescendu l'escalier. C'était un film très en avance sur son temps, une sorte de fable philosophique, mais évidemment très rabelaisienne, où les latrines explosaient, où on baffrait jusqu'à mourir, puisque c'était manger pour se suicider. Donc c'est un peu particulier comme sujet, et le public à l'époque n'était pas aussi cinéphile qu'aujourd'hui, et a très très mal pris la chose.
Et la présidente du jury de l'époque aussi, qui était Ingrid Bergman, qui avait absolument pas aimé le film, qui n'a pas été récompensé d'ailleurs.
C'était pas le genre de la maison. Il y avait la maman et la putain la même année, donc il y avait tout pour l'ulcérer.
1991, maintenant voici un réalisateur qui a été à la fois récompensé et qui s'est beaucoup fâché avec Cannes.
On va déjeuner dehors, ce sera prêt dans un quart d'heure.
Alors voilà, c'est toujours pareil. À Nenem, ma mère et ma sœur n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'interrompre pendant que je travaillais. Tout ça pour aller avaler leur saloperie de bouffe hollandaise. Ma mère criait, c'est tout froid, ça va brûler. Enfin, ma sœur venait me chercher. Pas un regard à mon travail. Ben, les femmes, il n'y a que la matière qui les intéresse.
Voilà la voix de Dutronc en Van Gogh dans le film de Maurice Pialat. Relation compliquée, hein, disais-je, entre Pialat et vous, Gilles Jacob. Ça n'a jamais été simple, hein?
Oui, mais moi j'ai toujours tellement respecté cet homme parce que c'était un génie et que Pialat, il pouvait tout d'un coup arrêter tout un film parce qu'il sentait qu'il n'arrivait pas à capter les 30 secondes de vérité qu'il voulait. Et il finissait par l'obtenir. Au besoin, il se battait avec Depardieu, il se battait avec le premier assistant, il le virait. Enfin, c'était très sportif les tournages de Pialat, mais le résultat fait que ça a été avec Renoir, Bresson, Tati et quelques autres, Rennais, le plus grand auteur français de tous les temps.
Et ce qui est sportif également, Gilles Jacob, vous le racontez, ce sont les bagarres parfois du jury au moment où le jury est enfermé. Enfin, Eva Béton raconterait ça beaucoup mieux que moi dans la villa à côté de Cannes. Eva Béton, qui va nous rejoindre dans un instant. Il y a eu une délibération très compliquée. C'était en 1979, je crois, avec Face à Face deux très grands films. L'un était Apocalypse Now, l'autre, je l'ai oublié évidemment, c'était Le Tambour. Face à Apocalypse Now. Les jurés en sont quasiment venus aux mains ce jour-là, en tout cas il a fallu...
Ils en étaient venus aux mains avec le directeur du festival de l'époque, qui avait inventé le festival, Robert Favlebray, un très très grand serviteur de l'État, et lui, il avait senti que Apocalypse Now allait devenir une date dans l'histoire du cinéma, et il voulait beaucoup que ce film soit récompensé. Françoise Sagan était amoureuse du tambour de Volker Schlöndorff, et donc entre eux ça n'allait pas du tout, et il a fallu revoter, il y a eu des dénonciations, ça s'est très mal passé.
Dans ce cas-là, quel est votre rôle? Vous essayez de calmer tout le monde. Quel est votre rôle dans ces cas-là?
Mon rôle, c'est surtout de me taire, de ne pas intervenir, car sinon c'est immédiatement dénoncé. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour faire respecter le règlement. Après, si les jurés se trompent, après, c'est là pour rectifier.
Tu connais bien la Bible?
Oui.
Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin.
Tarantino, Pulp Fiction, on est en 94, violence des textes, violence tout court dans le cinéma.
Je me suis beaucoup demandé, pour le film précédent qui s'appelait Reservoir Dogs, si j'allais le montrer ou pas. Parce que par exemple, il y avait quelqu'un qui tranchait l'oreille, un malfrat qui tranchait l'oreille d'un autre. Et alors je l'ai montré pourquoi, parce qu'ensuite il se baisse, il ramasse l'oreille et il lui parle à l'oreille. Donc l'humour noir...
Vous voulez dire que s'il n'avait pas rajouté ça à la scène, il n'aurait pas été sélectionné à Cannes.
À ce moment-là, compte tenu des circonstances, probablement. Toujours est-il que Tarantino est un... Il a le cinéma dans le sang, il était vendeur de cassettes dans une boutique de vidéos, il a vu tous les films du monde, et il est très bon metteur en scène. Donc Pulp Fiction était en compétition avec un film russe de Nikita Mikhalkov qui s'appelait Soleil trompeur, qui était très très bon aussi, et Clint Eastwood, président du jury, et Catherine Deneuve, vice-présidente, ont plutôt poussé pour que ce soit Pulp Fiction. Et donc c'est ce qui s'est passé.
Évidemment, Gilles Jacob, on cherche à la page, à la lettre W de votre dictionnaire, un certain Harvey Weinstein. Vous ne l'aimiez pas, vous écrivez, il y avait quelque chose dans son physique et ses manières qui me dégoûtaient. Vous racontez la pression qu'il vous mettait parfois pour que vous sélectionniez ses films. Ça prenait des proportions incroyables.
Au téléphone. C'est quelqu'un qui pouvait vous appeler 20 fois en 48 heures. Mais donc, j'ai senti qu'il fallait résister parce qu'il achetait tout le monde, il faisait les Oscars,
il aurait voulu... Comment il achetait tout le monde.
Il faisait des campagnes publicitaires que personne ne pouvait suivre et plus si affinité. Donc je ne veux pas l'accuser davantage.
Est-ce que vous aviez des témoignages à ce moment-là d'actrices déjà qui venaient vous voir sur les pratiques de Weinstein? Est-ce que
non, pas du tout.
On a du mal aujourd'hui à imaginer que tout ça a été entièrement tué et que personne ne savait dans l'entourage de Weinstein.
Je pense que son entourage savait puisqu'il payait des secrétaires pour justement arranger ses rendez-vous. Mais enfin, vous savez, au Festival de Cannes, il y a un mouvement énorme. C'est impossible de se rendre compte de tout ce qui peut se passer sur les yachts, dans les hôtels, dans l'arrière-pays, etc. Mais il était suffisamment odieux comme ça. J'avais pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il fallait le contenir à distance.
Gilles Jacob, il y a eu l'affaire Weinstein, il y en a eu d'autres depuis. Fallait-il, par exemple, effacer Kevin Spacey, soupçonné lui aussi d'agression sexuelle du dernier film de Ridley Scott, ou est-ce que vous dites par principe on ne touche pas à une œuvre d'art, on ne touche pas à un film?
On ne touche pas à une œuvre d'art. On laisse Kevin Spacey sur son film, on monte le film, on n'invite pas forcément l'acteur s'il est démontré qu'il a fait des choses horribles, mais voilà, non, le film, il ne faut pas y toucher.
Une œuvre d'art, c'est sacré.
Mais oui. C'est ce qu'on a fait pour Lars von Trier, qu'on a...
J'allais vous poser la question. Lars von Trier va faire son retour dans 15 jours à Cannes, 7 ans après avoir été exclu pour avoir dit à Cannes d'ailleurs qu'il comprenait
exclu,
Hitler.
Lui pas son film. Il avait fait des déclarations.
C'est vous qui aviez géré cette affaire à l'époque.
J'étais président à l'époque, mais avec mon conseil d'administration, on a pris une décision qui était bonne, je crois, qui était de garder le film. D'ailleurs, le film a eu un prix. Mais lui, on lui a demandé de s'écarter pour un moment parce qu'il avait été trop loin. Plus il devenait comme tout le monde, plus il faisait des provocations verbales. balle. Et là, il y a un moment où il faut arrêter.
Et là, son film sera projeté en dehors de la sélection officielle, en hors compétition. Eva Bétan vient de nous rejoindre dans ce studio. Les questions des auditeurs également. Dans quelques minutes, Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes, est l'invité du Grand Entretien. Il est 8h30. Gilles Jacob, Eva Bétan a 273 questions à vous poser. La première, Eva, bonjour.
La première, pour avoir beaucoup couvert le Festival de Cannes, c'est effectivement un endroit unique au monde. Mais je me dis chaque fois, c'est une magnifique supercherie au bon sens du terme. C'est-à-dire que le flot des spectateurs, ce n'est pas ces films qu'ils vont voir, l'argent... C'est d'autres films qu'ils financent. Et on met le cinéma, je dirais, minoritaire en valeur. On dit, voilà, un artiste coréen, un artiste turc, il vaut tout. Mettez votre belle robe, montez les marches et c'est lui qu'on va célébrer. Est-ce que c'est une sorte, avec tout le face qui va avec, d'îlot de résistance pour les auteurs ?
Ah ben complètement, parce qu'en réalité ces fameuses marches dont nous parlons tous, c'est fait beaucoup pour les photographes qui sont là, les télévisions, les magazines du monde entier. En réalité Cannes, c'est les Jeux Olympiques sans le spectacle, puisque le spectacle est à l'intérieur de la salle et il faut être dans la salle pour le voir. Par conséquent, on a imaginé, parce que les lieux sont monumentaux, une montée des marches qui honore tous ces metteurs en scène qui viennent du monde entier. Mais une montée de marche, ça dure 3/4 d'heure. Et ça n'a d'intérêt que sur 5 minutes, le moment où l'équipe du film avec les artistes arrive. Avant, alors on nous reproche qu'il y a des footballeurs, qu'il y a des coureurs automobiles, qu'il y a des mannequins. Ça n'a aucune importance. C'est un flot continu qui défile. Les gens qui sont dans la salle, ils veulent en être, ils veulent paraître, ils veulent se montrer. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le film qu'on va montrer ce soir-là et les artistes qu'on va aider à être promus dans le monde entier. C'est ça le succès de Cannes.
Alors, vous êtes fasciné par les actrices, mais votre véritable amour, il me semble, ce sont les auteurs. L'admiration, elle est pour les auteurs. Les auteurs, vous dites, dans ce livre, vous dites, il y a des changements, il y aura toujours des changements dans le monde du cinéma, mais il restera les auteurs. Aujourd'hui, on voit par exemple que les grands auteurs se font financer par Netflix, Bong Joon-ho l'an dernier avec Ojak, ils vont vers ça. Est-ce que vous pensez que, on a très peur de Netflix, est-ce que vous pensez que c'est une peur comme les autres qui sera surmontée ?
Elle sera forcément surmontée. Le monde bouge, le cinéma bouge, Cannes doit bouger, Cannes doit même être en avance sur son temps. Donc en réalité, Netflix, c'est un phénomène. Mais il n'y a pas que, il y a Amazon, il y a d'autres gens. Ils mettent énormément d'argent parce qu'ils ont un public mondial et ils le donnent à des très grands metteurs en scène. Cannes ne peut pas se priver de ce genre de films. Simplement, il faut peut-être les montrer dans les débuts hors compétition pour ne pas créer...
Oui, mais pour l'instant, c'est eux qui boudent et qui disent on ne veut pas venir.
Oui, mais parce que l'année dernière, on les a mis en compétition. Cette année, on les redescend hors compétition. Ils considèrent ça comme un affront. Les auteurs n'ont pas été respectés. Ils s'en vont. Il fallait faire l'inverse. On commence par y aller doucement, montrer ça dans une petite niche, puis après on voit ce qui se passe.
Mais ça devrait s'arranger, vous pensez, avec le temps.
Oui.
Gilles Jacob, est-ce qu'il vous est arrivé de rater un festival, d'estimer que le jury n'était pas le bon, que le palmarès n'était pas le bon, que vous êtes passé à côté des films événements d'une année ?
Ça arrive.
Ça arrive souvent ?
Souvent non, mais ça arrive.
Quel est le grand film, par exemple, que vous n'avez pas vu venir ?
Pas vu venir, vous voulez dire le jury, parce que nous ne sommes pas le jury. Hein.
Oui, non, non.
Nous, les grands films, si nous ne les mettons pas en compétition, alors c'est nous les fautifs.
Vous avez eu des regrets, il y a des films qui n'ont pas été retenus.
Puis on fait des erreurs. Moi. Ouais. Vous savez, on voit 5-6 films par jour pendant 2 mois et demi. C'est des films pas finis, qui n'ont pas la musique, qui n'ont pas les sons. Donc on les voit dans les conditions horribles, on est exténué, on fait des erreurs. Ouais. Je réclame le droit à l'erreur. Mais il faut se tromper moins que les autres. C'est ça le problème. Et quant aux jurés, ben, vous savez, on essaye de constituer un jury d'abord qui s'entendent entre eux. C'est pas toujours facile. Et quelquefois, ils sont très têtus.
Il y a, on voit cette année qu'il y a 2 cinéastes en compétition officielle qui ont des vrais problèmes dans leur pays. Un russe, un iranien. Ça a toujours, dans l'histoire du Festival de Cannes, il y a eu ça à différents moments. Et ça montre où sont les endroits chauds du globe. Il y a eu les pays de l'Est, il y a eu la Chine, il y a...
L'Iran.
Donc là, par exemple, avec Panahi, comment fait-on ? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes pour Panahi. Comment fait-on pour négocier ?
Ah ben, par des moyens détournés. Quand je montrais L'homme de marbre de Vaïda dans les années 70, il arrivait dans des bobines qu'on déposait sur un seuil d'immeuble dans le noir avec marqué « J'irai cracher sur vos tombes ». Donc c'était du roman policier. J'emmenais mes enfants parce qu'ils aimaient le côté film d'espionnage. Mais c'est la même chose pour Panahi. On arrive à se procurer, maintenant c'est très facile, par des liens internet. Mmh. On voit les films, on les prend. Alors l'auteur ne vient pas parce qu'il est retenu dans son pays. Il m'est arrivé de monter l'escalier en brandissant la chaise d'un réalisateur chinois qui était interdit de venir par son pays. Et je voulais marquer par là ma protestation.
Et il y a des réalisateurs qui payent cher le fait d'avoir eu le courage de venir à Cannes, notamment le réalisateur Zhang Wen.
Il a eu 7 ans de prison, 7 ans d'interdiction de travailler.
Non, 7 ans d'interdiction de tourner, 3 mois de prison, c'est ça ?
Oui, mais ça a été ramené, en effet. Mais en effet, il a été vraiment... Et nous sommes toujours battus pour la liberté des artistes, pour les faire sortir de prison, voire les faire sortir de leur pays. On avait même proposé à Kiarostami de venir habiter la France. Juliette Binoche est bien placée pour vous en parler. Et il a préféré rester dans son pays.
Et Kiarostami, si je me souviens bien, que le gouvernement iranien avait laissé sortir à la dernière minute. Oui. Il avait monté les marches, descendant de l'avion quasiment, avait eu la palme d'or, c'était pour le goût de la cerise.
Le goût de la cerise, oui.
Est-ce qu'après on lui a fait payer cette palme ?
Alors, il a eu des relations ambiguës avec son pays parce qu'il n'a jamais fait des films trop protestataires et on lui a fichu un peu la paix à la condition qu'il ne fasse pas trop de bruit, à une espèce d'accord tacite. Mais c'était un immense artiste, puisqu'il était un très grand photographe, un écrivain, un moraliste, un génie du cinéma.
Aurélie, la parole aux auditeurs et aux auditrices de France Inter. Aurélie nous appelle au standard, il y a une question pour vous. Gilles Jacob, bonjour, bienvenue.
Bonjour Monsieur Fauvel, bonjour France Inter, bonjour Monsieur Jacob. C'est un honneur pour moi d'avoir été sélectionné par Inter pour vous poser une question. Ma question est la suivante. Quels sont les films qui vous ont le plus marqué en 2017 et en ce début 2018?
Ah, alors là je vais être très très mauvais pour répondre à la question. Parce que j'étais en train d'écrire ce fameux livre. Et donc, j'ai pas vu beaucoup de films.
Vous n'êtes pas allé au cinéma ces derniers mois?
Non, pas tellement, à vrai dire. Donc, si vous avez une autre question, je la prends volontiers.
Aurélie, vous avez une autre question? On vous écoute.
Quels sont les films qui vous ont le plus marqué tout au long de votre vie, en fait?
Alors, je vais vous en donner deux très importants. La règle du jeu de Jean Renoir, un des plus grands auteurs de tous les temps, et Citizen Kane d'Orson Welles, film américain de 1940. Faut aller voir ces deux films. Sinon, si vous n'êtes pas contente, je rembourse.
Aurélie, vous avez entendu un remboursement si vous n'êtes pas contente.
Je partage complètement l'avis de Monsieur Jacob. Ce sont deux films magnifiques.
Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir appelé France Inter ce matin. Un mot également, Gilles Jacob, d'un autre événement annoncé à Cannes. C'est le film qui sera projeté le dernier soir après le palmarès. C'est le film de Terry Gilliam, le Don Quichotte. Film maudit, commencé il y a plus de 20 ans avec, on le sait, d'abord des soucis de santé, puis de production. Il sera enfin là, enfin on espère, il sera enfin projeté là. Vous avez pu le voir, ce film ?
Non, je ne l'ai pas vu, mais moi je le regarderai avec un serment de cœur, parce que moi, Don Quichotte, c'est Jean Rochefort. Et j'avais une telle tendresse et une telle admiration pour Jean, que je serais ravi de le voir avec un autre acteur, mais ce ne sera pas la même chose.
Film incroyable, hein. Dans son cheminement, en tout cas, 20 ans pour terminer un film comme ça.
Et ça entre dans la légende du cinéma. Il y avait eu un film qui s'appelait Kroustalyov, ma voiture, d'Alexei German. Racontez l'histoire. Il a mis combien d'années pour le faire et quel était son accueil à Cannes?
German était quelqu'un, immense artiste, mais maudit dans son pays. Il habitait Saint-Pétersbourg et en fait, il avait un studio chez lui et il bricolait ces films qui devenaient des très grands films dans l'histoire du cinéma, mais faits avec 3 sous. Et de temps en temps, l'État lui donnait un peu d'argent, c'était des bagarres à n'en plus finir. Et ce film-là, je crois qu'il a mis 7 ans. Je lui ai demandé pendant 3-4 ans, et on a fini par l'obtenir. C'était un film merveilleux en noir et blanc, format carré, qui racontait toute une histoire.
Et accueil atroce.
Qui a été accueilli comme ça, par la critique.
Très mal.
Ou très mal, alors encore mieux. Mais il va carrément.
Et non, donc, mais c'est terrible.
Ils se sont trompés.
Quand on se dit que quelqu'un a mis... il y a laissé quasiment sa peau, il a eu des moments terribles dans sa vie.
Oui, mais ça veut rien dire. On doit juger une œuvre, on ne doit pas juger, parce que, mettons, j'ai mis 2 ans pour écrire ce livre. Bon, d'accord, il est très bon, mais c'est pas là-dessus qu'il faut le juger.
Roger nous appelle au standard. Bonjour Roger, bienvenue, on vous écoute, vous êtes en direct.
Voilà, bonjour, je voulais demander à M. Jacob s'il aurait parlé il y a un an ou un an et demi de la même façon de M. Weinstein.
Ben écoutez, exactement de la même façon, parce que l'article de mon livre sur lui, et je vous assure qu'il est sévère, a été écrit il y a justement plus d'un an.
Oui, je
quand les
qu'il
événements
est sévère,
sont
oui.
arrivés, ben, je me suis contenté de les enregistrer, mais ça n'a pas changé grand-chose.
Merci Roger, je voudrais qu'on dise un mot Gilles Jacob d'un sujet qui vous concerne qu'à moitié, mais quand même, vous allez voir, TF1 réclame, on en parlait tout à l'heure avec Dominique Seux, l'introduction d'une troisième coupure pub lors de la diffusion des films à la télévision. Il y a beaucoup de gens qui ne voient les films de cinéma qu'à la télévision. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée, une mauvaise idée?
C'est
Est-ce que
monstrueux.
Ça va changer aussi la façon d'écrire des films?
C'est monstrueux. Il faut revenir à zéro coupure. Alors je sais bien que les chaînes ouais. commerciales font deux, mais finalement on pousse les gens à voir des séries. Parce que si vous coupez les films, ça devient des mauvaises séries. Les séries sont faites pour durer 45 minutes. Les films, non. Il faut, le respect du droit d'auteur, en France tout au moins, a toujours été. Donc je suis violemment opposé à cette troisième coupure.
Et Charles nous appelle d'Aubervilliers. Bonjour Charles.
D'accord.
Charles, vous êtes en direct sur France Inter.
Allô ?
Oui, bonjour Charles, Marc Fauvel, vous êtes en direct sur France Inter.
Oui, bonjour. Je voulais demander à M. Jacob s'il trouvait judicieux de faire de l'art de la compétition, et notamment le cinéma, donc.
Est-ce qu'il faut une compétition
Alors, la compétition est très importante dans un festival de cinéma parce qu'il crée une excitation entre les journalistes, entre les équipes de films. Alors, je sais bien qu'on compare des choses incomparables, c'est pour cette raison que Woody Allen, Vaida et d'autres n'ont jamais voulu être en compétition. Mais cette excitation, elle est nécessaire parce que sinon, ça devient une simple exposition. On montre des films tous les jours dans certains festivals et il n'y a plus cette espèce d'excitation littérale des cinéphiles.
Eva Bétan ?
Oui, à propos de compétition... Vous évoquez dans votre livre le fait quel pourrait être le concurrent de Cannes et vous dites un festival à Hollywood, mais on peut être tranquille, il n'aura pas lieu. Il y a un festival à Toronto qui attire de plus en plus de monde et la profession, qui est en même temps que Venise et Deauville et qui leur fait du tort. Festival non compétitif qui est une sorte de fenêtre sur le marché nord-américain. Est-ce que le danger, peut-être pas pour Cannes, mais pour d'autres festivals, peut être là?
Mais même le danger pour Cannes, parce que petit à petit, ce qui était une simple exposition devient un marché, et si un jour ils mettent une compétition, comme ils ont toutes les stars, parce qu'à vol d'avion c'est rien du tout de Hollywood à Toronto, là nous serions en grand danger. Ça deviendrait entre la passerelle Venise-Toronto qui se mettrait ensemble pour préparer les films pour les Oscars, ça deviendrait un très grand danger pour le Festival de Cannes. Donc il faut être très vigilant parce que Cannes, c'est comme le Louvre, c'est comme Versailles, c'est ce qu'on a de plus. C'est un joyau extraordinairement précieux pour la France et la France devrait cajoler le Festival de Cannes, l'entourer de soins, de financements, ce qu'il ne fait de moins en moins. Et c'est une erreur énorme parce que nous n'aurons jamais plus ça.
Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, Gilles Jacob, c'est le titre de cet ouvrage de 800 pages, un peu plus même, que vous venez donc de publier chez Plomb. Merci d'avoir été ce matin l'invité de France Inter. Merci à Eva Bétan qui nous fera vivre, bien sûr, le festival. Ça commence dans deux semaines et quelques jours. Hein. Voilà. Et le palmarès le 19 mai à vivre, évidemment, en direct sur France Inter. Merci Eva, merci Gilles Jacob.